Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïka, réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg.
Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Fréquence Europe. La crise sanitaire que nous connaissons aura donné une image assez controversée des premières réactions européennes, notamment par la fermeture unilatérale et non coordonnée des frontières. Ces mesures ont encore aujourd'hui des implications politiques, économiques et juridiques, notamment dans les zones frontalières, comme c'est le cas dans la région du Grand Est, région transfrontalière par excellence, avec près de 760 km de frontières, dont 450 km de frontières franco-allemandes. À titre d'exemple, 45 000 frontaliers travaillent en Allemagne. Alors, afin de mieux comprendre comment s'est organisé et s'organise encore dans ces conditions particulières la coopération et le dialogue entre les acteurs, ce que l'on pourrait appeler les travailleurs de l'ombre, les chevilles ouvrières de la coopération transfrontalière franco-allemande, nous aurons le plaisir d'avoir dans un premier entretien Jean-Baptiste Cusin, directeur de la coopération transfrontalière européenne et internationale à la région Grand Est, pour avoir son point de vue français des autorités françaises régionales. Et nous aurons le regard vu d'Allemagne avec Klaus Schüle, chef du bureau des relations transfrontalières du Land du Bade-Württemberg installé à Fribourg dans un second temps. Bonjour Monsieur Cusin.
Bonjour Olivier.
Alors vous êtes directeur de la coopération transfrontalière européenne internationale à la région de Grand Est. Alors j'aimerais, en introduction, pour bien comprendre, si vous pouviez nous expliquer comment s'organisent dans votre collectivité les relations transfrontalières en temps normal, en dehors d'une crise telle que nous la connaissons aujourd'hui.
C'est relativement simple. En temps normal, la région de Grand Est, héritière, si j'ose dire, des traditions de coopération de Champagne-Ardenne, du Luxembourg, de la Lorraine et de l'Alsace, a des liens bilatéraux privilégiés avec trois lenders frontaliers, la SAR, Rhénanie-Palatinat et Bade-Württemberg. Nous sommes la seule région frontalière d'Allemagne. Des liens privilégiés également avec le Grand-Duché du Luxembourg, avec la Wallonie et avec la Suisse. Et nos échanges, en temps normal, s'organisent à la fois de manière bilatérale, mais aussi dans le cadre d'un sens de coopération, de différents, ce qu'on appelle des espaces de coopération, le Rhin supérieur, qui est cet espace trinational qui réunit l'Alsace, le sud du Palatinat, le pays de Bade et les cantons de la Suisse du Nord-Ouest autour de Bade, mais également la grande région qui fédère le Luxembourg, la Wallonie, la Sarre, Rhénanie-Palatinat et la Lorraine, mais aussi dynamique de coopération autour de l'Ardenne franco-belge, puisque nous avons également ce lien privilégié avec la Belgique.
Alors, concrètement, on a des instances, comme vous venez de le présenter, hein, des relations transfrontalières et des instances qui ont été créées pour faciliter ces relations. Comment vous présenterez les effets du Covid-19 dans ces relations et comment, finalement, s'est organisé ce travail qu'il a fallu mettre en place avec les autorités des autres pays voisins?
Il y a deux éléments à prendre en compte qui vont ensemble. Le premier, c'est que évidemment, début mars, lorsque le constat a été fait qu'il y avait un cluster autour de Mulhouse dans le Haut-Rhin et que la pandémie prenait de l'ampleur sur le territoire alsacien avec des signaux faibles d'une amplification, que également il y avait des signaux de foyers infectieux également côté allemand dans certains lenders, des prémices de foyers infectieux côté belge. La première question qui s'est posée, ça a été de savoir comment observer ceci et comment faire en sorte de prévenir l'accélération de la propagation du Covid, qui relève, il faut le rappeler, d'une compétence côté français de l'État. Mais également, il a également fallu anticiper les questions que les mesures de restriction qui se dessinaient pour limiter la circulation aux frontières, anticiper l'impact que ces mesures auraient sur la vie quotidienne des habitants d'une région qui sont structurellement habitués à franchir la frontière quotidiennement pour les travailleurs frontaliers, sur une base hebdomadaire ou moins régulière, aussi pour bon nombre de personnes qui sont habituées pour des raisons professionnelles, familiales, personnelles à franchir la frontière. Et évidemment, c'est l'impact des mesures de restriction aux frontières sur la vie quotidienne des habitants des zones frontalières qui a été, je dirais, l'angle d'attaque pour pouvoir mettre en place un dialogue et une coordination avec nos partenaires frontaliers.
Alors, lors d'une précédente émission, j'avais reçu Birte Wassenberg, qui est professeure d'université à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Elle notait que finalement, les collectivités territoriales, la région et les partenaires ont été mises sous le fait accompli des décisions étatiques, celles de Berlin et celles de Paris par rapport à la fermeture des frontières. Est-ce que concrètement, il n'y avait pas de dialogue, ça s'est passé comme ça et vous avez dû faire face, ou est-ce que vous avez été entendu et informé des décisions qui allaient être prises?
La vérité, comme souvent, est entre les deux, à compter de la semaine du 9 mars, différents signaux ont permis d'indiquer que l'Institut allemand d'épidémiologie, le Robert Koch Institut, avait pris la mesure du cluster existant autour de Mulhouse. Et nous avons eu, par nos partenaires des Länder, des signaux d'alerte indiquant qu'il était plus que probable que le Robert Koch Institut notifie que tout ou partie du territoire du Grand Est pourrait être classé comme une zone à risque. Et ceci a été effectif le mercredi 11 mars au matin, sur la base, effectivement, d'une décision qui, de toute évidence, n'avait hélas pas été concertée ni avec l'Institut Pasteur, qui est l'homologue du Robert Koch Institut, ni avec les Länder, qui, évidemment, en Allemagne, ont une compétence en matière de santé publique qui est partagée avec l'État fédéral. Et ce qui signifie que ce à quoi nous avons été confrontés, c'est qu'à partir du moment où le Robert Koch Institut a classer le Grand Est, la région Grand Est dans son ensemble, sont distingués de la situation épidémiologique d'un département à l'autre comme étant une zone à risque, aussi bien les autorités fédérales, ministère fédéral de l'Intérieur, Bundespolizei, que les autorités des Länder avaient la possibilité d'activer différentes mesures de précaution, de prévention, pour permettre la limitation des flux venant d'une zone à risque, et donc la possibilité de sortir l'arsenal des outils permettant de restreindre les flux à la frontière. Et donc, les Länder, tout de suite, nous ont alertés. Il y a eu un dialogue au niveau politique dès le 11 et le 12 mars entre Jean Rottner, président de la région, et les ministres-présidents des trois Länder frontaliers. Et ce qui a été constaté, c'est que, hélas, il y avait une machine qui était enclenchée et qui ne pouvait que conduire le niveau fédéral en Allemagne et les Länder à prendre des mesures de restriction aux frontières en application du principe de précaution. Et dès lors, il s'agit pour nous non pas de réussir à empêcher ces mesures de restriction, le coup était parti, si j'ose dire, et par ailleurs, c'était la tendance dominante au niveau européen, d'activer le principe de précaution sanitaire en utilisant les frontières intérieures d'un espace Schengen comme étant des barrières permettant de limiter la propagation du Covid. Et donc, dès lors, ce qu'il a fallu faire, c'est d'abord s'assurer que les mesures dans leur annonce soient concertées entre Paris et Berlin, qui a été le cas dans une communication conjointe des deux ministres de l'Intérieur, le ministre fédéral Seehofer et Miss Castaner le 13 mars, et que par ailleurs, que la mise en œuvre des mesures de restriction se fasse autant que faire se peut de manière concertée, à savoir avec une communication maîtrisée. Il y a eu, hélas, des bugs au début sur l'interruption de certaines liaisons ferroviaires, sur le fait que les premiers contrôles aux frontières ont surgi avant que le protocole de mise en œuvre ne soit notifié et surtout qu'il y ait une définition concertée entre la France et l'Allemagne des catégories de personnes habilitées à passer la frontière. Ceci s'est mis en place très rapidement, mais il y a eu effectivement, autour du week-end du 14-15 mars, le sentiment d'un fait accompli, d'une NAS qui se refermait sur notre frontière avec l'Allemagne, d'où la nécessité qui avait été convenue entre les ministres présidents des Länder et président Rottner de pouvoir nous coordonner pour pouvoir faire face à cette situation et, à défaut d'avoir réussi à l'empêcher, réussir à l'aménager.
Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que donc, pour les travailleurs frontaliers, il y a quand même eu des difficultés de passage aux frontières, beaucoup de papiers, et surtout le fait de l'interdiction de faire des achats alors qu'ils étaient dans le pays, ils pouvaient aller travailler mais pas y effectuer des achats. Ça a été un peu ressenti par certains comme une forme de discrimination. Aujourd'hui, comment se gère, puisque la frontière est encore partiellement fermée ou encore, on peut dire, contrôlée, comment aujourd'hui les autorités régionales des deux pays travaillent pour essayer de faciliter la situation des personnes qui ont à passer cette frontière?
Alors, cet état de travail continue depuis le week-end du 14-15 mars et qui est un travail pour lequel il y a eu très rapidement une concertation qui a bien fonctionné entre du côté de l'État sur les aspects frontières, la région, la préfecture, bien évidemment, en première ligne, mais aussi les départements frontaliers, nos collègues de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, les 5 eurodistricts qui sont sur la frontière allemande, nos partenaires des 3 Länder frontaliers, et très rapidement également, le ministère fédéral de l'Intérieur et la Bundespolizei. Nous sommes organisés dès le 12 mars, en mettant en place une cellule de contact, une Schaltstelle, pour pouvoir nous parler de manière quotidienne au début. Ensuite, on est passé progressivement à des réunions tous les deux jours, de manière à pouvoir à la fois sécuriser les informations sur l'annonce des mesures qui seraient prises de part et d'autre de la frontière, aussi bien sur la frontière qu'à l'intérieur du territoire, notamment les mesures restrictives concernant l'accès à l'espace public dans les Länder frontaliers, mais également notre interface de dialogue a aussi permis, dès le début, de pouvoir faire remonter des informations que nous avions sur les incohérences, les anomalies, voire des situations parfois scandaleuses qui étaient constatées par d'autres de la frontière. Et il y a eu deux types de situations à traiter. D'abord, la nécessité de sécuriser et de fiabiliser l'information concernant les droits des frontaliers, des habitants de la zone frontalière, avec des questions relevant aussi bien des protocoles de passage de la frontière, mais aussi beaucoup de questions relevant du droit du travail, du droit fiscal, concernant la nécessité de garantir une équité de traitement entre frontaliers et non frontaliers employés dans les zones d'emploi frontalières, donc principalement évidemment en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse, mais aussi nécessité de traiter les remontées qu'il y a eu très rapidement concernant des cas isolés de discrimination. Il y a eu des témoignages qui sont remontés, beaucoup par les eurodistricts, par le réseau de toutes les structures frontalières, comme le frontalier Grand Est, le réseau des InfoBest, le Centre européen des consommateurs à Kiel, qui ont fait un remarquable travail depuis 2 mois, et qui ont été tous en première ligne, tous connectés, pour pouvoir faire remonter les anomalies, mais aussi pouvoir alerter sur des situations parfois scandaleuses, d'une personne qui s'est pris un œuf sur sa voiture, des frontaliers qui ont fait remonter des témoignages d'attitudes extrêmement discriminantes, voire injurieuses dans l'espace public. Et nos partenaires des Länder frontaliers se sont d'emblée organisés pour pouvoir traiter ces signalements, les faire remonter, pouvoir organiser des prises de parole de leurs autorités pour indiquer qu'ils ne sauraient en aucun cas être question d'accepter des mesures discriminatoires dans l'espace public, dans les entreprises, mais également définir les conditions pour aménager la législation en vigueur là où ceci était nécessaire, notamment concernant le régime fiscal applicable aux frontaliers devant travailler en télétravail, se placer en situation de chômage technique. Et là, avec tout un travail qui a été fait avec les autorités fiscales, les ministères de l'Emploi au niveau national, côté français, côté allemand, où là, il y a eu une action en parfaite synergie entre les services de l'État côté français et les collectivités pour signaler les besoins et les traiter.
Pourriez-vous nous donner un ou deux exemples concrets ?
Je vous donne deux exemples. Initialement, il n'était pas possible pour des salariés d'entreprises allemandes ayant des salariés détachés en France mais n'ayant pas d'établissement, donc des entreprises n'ayant pas de filiale dûment établie en France mais simplement employant une personne en France, initialement, il n'était pas possible que les personnes puissent bénéficier du droit à chômage partiel. Ceci a été très rapidement résolu grâce à une intervention du ministère des Affaires sociales côté français, et une démarche en miroir a été engagée auprès des autorités fédérales au niveau allemand. Idem, il a été très rapidement constaté que les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Allemagne placés en situation de chômage partiel étaient de fait confrontés à une situation de double imposition, puisque lorsque vous êtes au chômage partiel en Allemagne, votre employeur a l'obligation de pouvoir effectuer un prélèvement forfaitaire à la source sur vos revenus de substitution, les revenus du chômage partiel, et le revenu résiduel après ce prélèvement à la source est ensuite imposé en France, puisque les frontaliers résidant en France travaillant en Allemagne sont résidents fiscaux en France, imposés en France. Et donc ceci signifiait que ces frontaliers étaient victimes d'une double peine, d'être en situation de chômage partiel avec une baisse de revenus, mais également d'être confronté à une situation de double imposition. Et là également, il a fallu des interventions coordonnées entre la région, les services de l'État, nos partenaires des lenders, les interventions des chambres de commerce et d'industrie pour pouvoir analyser la situation, la faire remonter au niveau fédéral, au niveau national, puisque nous sommes sur des sujets qui relèvent d'une compétence fédérale en Allemagne et nationale en France, et parvenir, ça a pris un petit peu de temps, à une solution qui a été rendue publique cette semaine. Voilà, c'est pour quelques exemples.
Là, ce sont des questions qui touchent effectivement les frontaliers, qui sont très concrètes. Il y a un autre sujet qu'on va dire était positif d'un point de vue de l'image, ça a été le fait d'avoir ce transfert de patients outre-Rhin. Comment c'est organisé là aussi? Est-ce que la région a joué un rôle? Est-ce que c'est l'implication personnelle des élus pour permettre ce transfert? Comment finalement on s'est mis d'accord, on a trouvé des solutions pour faire passer des patients français du côté allemand?
Alors, ça a été le produit d'une chaîne de solidarité et d'un travail réellement collectif. Je m'explique. Le constat a été fait dans la semaine suivant la fermeture de la frontière que certains hôpitaux en Alsace, en Moselle, arrivaient à point de saturation. Et donc, à ce moment-là, était d'ores et déjà envisagé l'organisation de transferts vers d'autres hôpitaux en France par avion, ensuite par les fameux TGV médicalisés dont on a beaucoup parlé. Mais initialement, le fait que des transferts puissent être organisés dans des zones beaucoup plus proches en faisant appel à nos partenaires frontaliers n'avait pas été envisagé, n'avait pas été modélisé. À savoir les cadres de coopération en matière sanitaire qui existe en période normale, prévoit et organise très bien des coopérations pour des prises en charge d'urgence, si vous avez un AVC, organise très très bien aussi la possibilité d'être soigné de l'autre côté de la frontière dans des logiques de complémentarité de soins, mais les cadres existants ne prévoyaient pas de manière systématique que dans le cas d'une pandémie, il y ait des ressources hospitalières qui soient mises à disposition du territoire demandeur. Et donc, ceci a été traité de manière extrêmement pragmatique, dans des échanges qui ont d'abord eu lieu au niveau technique, dans le cadre de la cellule de contact que nous avions établie avec la préfecture, en utilisant cette cellule de contact pour pouvoir, du côté français, nous, préfecture, région, département, interroger nos partenaires des trois lenders pour leur dire « Avez-vous de la capacité hospitalière ? Si oui, est-il envisageable ?» en définissant évidemment un cadre, un protocole de transfert, de pouvoir prendre en charge des patients. Et cette question a été posée dès le 18-19 mars. Elle a été traitée également au niveau politique, avec des interventions, des contacts entre le président Rottner et les ministres-présidents, les secrétaires d'État des trois leaders frontaliers, également des échanges entre la présidente départementale du Haut-Rhin et nos partenaires de Baden, mais aussi des cantons frontaliers de la Suisse, des échanges portés par le président Rottner et l'État avec les autorités luxembourgeoises. Et tout ceci a permis, effectivement, en quelques jours, d'avoir progressivement tous les signaux permettant de confirmer qu'il y avait la possibilité que des patients soient pris en charge au Luxembourg, en Rhénanie-Palatinat, dans la Sarre, en Baden-Württemberg et dans les cantons frontaliers de la Suisse, avec les premiers transferts de patients qui se sont faits au cours du week-end du 20 mars. Et une fois que la dynamique a été lancée, il y a eu un interfaçage entre les partenaires frontaliers, leurs autorités sanitaires et l'ARS qui est très rapidement établi, de manière à pouvoir recenser les hôpitaux étant en situation de tension, étant demandeurs pour pouvoir transférer des patients, identifier les hôpitaux ayant une capacité d'accueil et organiser le protocole de transfert.
En termes de chiffres, vous avez à peu près une idée du nombre de patients qui ont été transférés dans ces zones frontalières à la grande région du Grand Est?
Alors, entre le 21 mars, lorsque le premier transfert a eu lieu, et la première semaine d'avril, à la fin de laquelle les transferts ont été interrompus, il y aura eu en tout plus de 150 patients qui auront été transférés vers les lenders frontaliers, vers les cantons suisses frontaliers, vers le Luxembourg, mais également vers des lenders non frontaliers, vers des cantons suisses non frontaliers et également vers Salzbourg, puisque aussi très rapidement, avec l'appui de la préfecture du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nos ambassades à Berne, à Vienne, à Berlin se sont mobilisées, aussi le réseau des consulats généraux, pour pouvoir voir s'il y avait aussi de la capacité sur des territoires plus éloignés. Et donc, il y a eu progressivement une complémentarité entre les offres d'accueil vraiment de proximité. Et dans un deuxième temps, au fur et à mesure que les lits qui étaient mis à disposition à Saarlouis, à Saarbrücken, à Germersheim, à Ludwigshafen, à Freiburg, à Karlsruhe, à Pforzheim étaient occupés, eh bien, il a fallu aller un peu plus loin, et ce qui a conduit à ce que les transferts se fassent jusqu'à Kiel et Lübeck en Schleswig-Holstein au bord de la mer Baltique et jusqu'à Salzbourg. Et donc là, il y a eu une vraie complémentarité d'action entre ce que les collectivités ont impulsé avec la préfecture, l'État et l'ARS sur la zone frontalière et la manière dont les services de l'État et nos réseaux diplomatiques ont pris très très rapidement le relais pour pouvoir, si je veux dire, pousser les murs et organiser également des transferts dans des territoires frontaliers.
Alors en conclusion, puisqu'on arrive déjà en bout d'émission, quel bilan, quelle analyse vous faites désormais de la gestion de cette crise? Et même, je dirais humainement, comment vous avez vécu cette crise?
Évidemment, ça a été extrêmement éprouvant parce que ça faisait très longtemps, en période de paix civile, que la frontière avec l'Allemagne est fermée. Donc on voit effectivement un traumatisme symbolique. On voit un traumatisme pour tous ceux qui étaient habitués à franchir la frontière pour des raisons professionnelles, familiales, ou pour des raisons d'agrément, aller randonner dans la forêt noire le week-end, et qui, évidemment, vivent ça, et moi je le dis personnellement également comme ça, comme étant un vrai empêchement. Et ceci est évidemment partagé par bon nombre de nos partenaires côté allemand. Et donc, le premier constat, c'est qu'évidemment, on est dans une certaine situation qui est extrêmement, extrêmement douloureuse, parce qu'on est sur un territoire qui est totalement interdépendant de nos partenaires frontaliers, et donc, on était habitué à vivre en franchissant la frontière sans le penser, en symbiose, et donc la fermeture de la frontière a été effectivement vue de part et d'autre comme étant un traumatisme. Mais l'aspect positif, c'est qu'on a aussi vu comment le dialogue de confiance a pu très rapidement s'organiser entre tous les partenaires frontaliers, en se parlant avec énormément de franchise, de lucidité, pour pouvoir aménager une situation que personne ne souhaitait, pouvoir également, en fédérant toutes les énergies des territoires, avec côté français, la région, les départements, les eurodistricts, les structures frontalières, les chambres de commerce, du côté allemand, les chambres de commerce, les Länder, également les eurodistricts, pouvoir aider aussi les autorités fédérales et nationales à comprendre ce qui se passe dans cette zone frontalière, qui évidemment est parfois vue depuis Paris, depuis Berlin, comme étant un angle mort, alors qu'on est dans une zone parfaitement centrale. Et donc, sur un plan humain, ça a aussi permis de densifier, de consolider des relations de confiance. Et par ailleurs, l'extrême agilité avec laquelle nos partenaires frontaliers ont organisé des transferts de patients a aussi permis, évidemment, de sauver des vies, mais aussi de pouvoir, dans une situation extrêmement oppressante, faire jouer une solidarité de fait, du quotidien, qui aussi a été symboliquement un marqueur essentiel, un marqueur essentiel pour nous dans la zone frontalière, un marqueur essentiel pour la relation franco-allemande, franco-suisse, franco-luxembourgeoise, mais aussi un marqueur essentiel au niveau européen, parce que force sera de constater quand on fera le bilan à froid de cette crise, que malgré tous ces dysfonctionnements, malgré cette situation inattendue et absolument incroyable, nous aurons été probablement une des régions d'Europe où la coordination, la solidarité se sera le mieux organisée, ce qui d'ailleurs est d'ores et déjà reconnu par la Commission européenne. Bon nombre de lignes directrices sur les transferts de patients, sur les bonnes pratiques en matière de coordination des contrôles aux frontières définies au niveau communautaire, l'ont été un petit peu trop tardivement, mais en s'inspirant des bonnes pratiques que nous avons inventées dans cette zone frontalière, et ce qui veut dire qu'à la fin, il faudra aussi mettre en avant le fait que, une fois de plus, le long de la Moselle, de la Sarre et du Rhin, nous aurons eu la chance de vivre une crise en inventant des solidarités de fait, en structurant un dialogue qui permet d'encaisser le choc de la fermeture de la frontière et de pouvoir en ressortir en ayant encore plus envie de travailler et d'avancer main dans la main avec nos partenaires frontaliers pour construire la sortie de crise.
Merci Monsieur Cuzin. Nous aurons donc Monsieur Klaus Schulle pour avoir le côté allemand, pour avoir son ressenti aussi qui n'est pas le même, déjà parce que le fonctionnement institutionnel allemand n'est pas le même. Je vous remercie pour cette clarté et donc je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.